Bonjour à tous. Heures, l'heure de l'économie du crime sur France Culture. Aujourd'hui encore, nous frayons avec les gangsters et les délinquants en col blanc pour tenter de remonter la piste de l'argent. Notre enquête a débuté hier avec les cartels de la drogue mexicains et les mafias italiennes devenues de véritables multinationales du crime. Leurs gigantesques profits transitent par les banques au cœur de la circulation des fonds suspects. C'est cette vaste entreprise de blanchiment et d'infiltration de l'argent sale dans l'économie légale que nous allons examiner aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous partons à la poursuite des banksters, ces gangsters de la banque, en compagnie de Noël Pons, ancien conseiller au service central de prévention de la corruption et ancien inspecteur des impôts. En compagnie également d'Éric Vernier en duplex de La Rochelle, maître de conférence à l'université du littoral Côte d'Opale et à l'ICITCO. En fin d'émission, les nouvelles de l'écho vous seront présentées par Xavier Martinet. Noël Pons et Éric Vernier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour comprendre les origines du blanchiment d'argent, il faut revenir au tout début des années 1930 et rappeler qu'Al Capone, le parrain de la mafia de Chicago, est alors condamné non pour les crimes qu'il a connus, mais pour fraude fiscale. Cela va entraîner une prise de conscience, Noël Pons, au sein des réseaux mafieux, de la nécessité de blanchir l'argent sale pour échapper à la justice.
Oui, c'était issu. Dans une période un petit peu antérieure, les trois grandes mafias américaines s'étaient regroupées. Il y avait la mafia irlandaise, la mafia juive et la mafia italienne. Elles se sont regroupées et malgré les meurtres qui se passaient entre eux, puisqu'il fallait bien vivre ou mourir, ils ont créé un système qui permettait de blanchir ces fonds, c'est-à-dire de rendre à des fonds illégaux, leurs caractéristiques normales pour pouvoir entrer dans l'économie ou vivre avec ces moyens-là. Il faut bien penser que Lucky Luciano, par exemple, on n'était pas loin, hein, a travaillé avec les îles Caïmans et la Suisse. Donc déjà, il y avait leurs paradis fiscaux spéciaux qui étaient déjà déclinés. Lucky Luciano ayant donné 1 million à des magistrats des îles Caïmans pour créer une loi sur le secret bancaire. Vous voyez, donc on est déjà dans un lien de ce cadre. Mais je pense que bien avant cet élément-là, ça existait déjà sous une autre forme, et cette notion de blanchiment n'a été vraiment prise en compte. Elle s'est perpétuée, bien sûr, avec les diverses mafias, mais aussi tout un ensemble de criminels qu'on ne peut pas qualifier de mafia parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée, mais qui sont bien organisés pour faire cet élément-là.
Ce sont ces mafias des années 20 et 30, et en particulier Meyer Lansky, le bras droit de Lucky Luciano, Éric Vernier, qui va poser les fondations des techniques modernes de blanchiment.
Oui, tout à fait. On peut dater le début du blanchiment moderne à peu près à cette époque, comme l'a dit Noël Pons. Meyer Lansky, qui était effectivement le bras droit de Lucky Luciano, a travaillé dans cette optique. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que, et ça a commencé à cette époque-là avec Al Capone qui tombe pour fraude fiscale avec Elliot Ness, il faut bien comprendre que aujourd'hui, sans blanchiment, il ne peut plus y avoir de crime quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent du crime, surtout lorsque ça représente des sommes considérables, puisqu'il faut rappeler que si on ne prend que l'argent criminel, ça équivaut à 2500 milliards de dollars de PIB environ chaque année, c'est-à-dire le PIB du continent africain. Aujourd'hui, effectivement, utiliser cet argent directement, à part dans quelques zones du monde, utiliser directement cet argent aujourd'hui est quasiment impossible. Donc on est obligé, et ça a commencé au début du XXe siècle, on est obligé de penser à des techniques, des circuits de plus en plus sophistiqués pour évidemment échapper à toute autorité et détection de l'origine de cet argent sale.
Des circuits qui ont donné lieu à de grands films au cinéma.
It's all been arranged just for us to get your money. That's the truth about Las Vegas.
Les seuls gagnants, c'est nous. Les joueurs n'ont pas l'ombre d'une chance. Leur argent liquide coule à flot des tables de jeu jusqu'à nos caisses, en passant par la cage, pour aboutir dans l'enceinte la plus sacrée du casino. L'endroit où ils font les additions. Le Saint des Saints. La salle des comptes. L'entrée était strictement interdite. Même moi, je pouvais pas y aller. Mais c'était mon boulot de l'alimenter en blé non-stop, ça oui.
Putain, ils avaient tellement de pognon là-dedans que t'aurais pu bâtir une maison en mur de billets de 100 dollars. Et le plus beau, c'était qu'à l'étage au-dessus, le conseil d'administration n'y voyait que du bleu. Pour eux, tout avait l'air réglo, pile poil. Vrai ? Faux.
Vérifier 5000.
Tous les gars de la salle des comptes avaient été implantés exprès pour pomper les bénéfs. Ils truquaient les comptes, ils paumaient les bordereaux, ils prenaient même carrément les pièces dans les caisses des machines. Pendant ce temps, tu entres et tu sors. Tu passes devant le branleur de service qui se fait 100 dollars en extra par semaine rien que pour surveiller la porte. C'est la routine, c'est une affaire qui tourne. J'entre, je sors, bonjour, bonsoir, circuler, y a rien à voir. Juste un autre cave plein aux ars qui sort du casino, une valise à la main.
On vient d'entendre le tout début de Casino, le film de Martin Scorsese de 1995, dans lequel Robert De Niro joue un patron d'un hôtel casino de Las Vegas, un établissement qui sert de paravent à la mafia de Chicago, à l'occasion pour nous de distinguer les différentes étapes du blanchiment classique, Noël Ponce.
Oui, les différentes, il y a trois moments de blanchiment, le transfert des espèces en numéraire, ensuite ce transfert dans des structures qui viennent un petit peu aménager cela, et enfin, en dernier lieu, on va intégrer ces éléments dans l'économie. Bon, ceci étant dit, c'est une analyse qui est un petit peu ancienne, et à mon avis, actuellement, les trois éléments, et c'est pas Eric qui me contredira, les trois éléments se sont regroupés. Et là, je vais vous citer un aphorisme de Patricia Matisse, qui est à la PIAC, donc il a créé, qui est à la PIAC, c'est la plateforme de saisie des profits criminels, donc des produits criminels. Donc vous voyez, c'est dans ce domaine. D'après elle, celui qui fraude doit blanchir, on est d'accord. Celui qui blanchit doit frauder, et celui qui fraude a besoin d'espèces. Donc ça veut dire qu'on a intégré tout ce système dans la même machine à laver.
La même machine, alors même que le sociologue américain Edwin Sutherland faisait la distinction entre les gangsters proprement dit et les criminels en col blanc. Cette distinction, Eric Vernier, elle serait peut-être dépassée?
Alors, elle est effectivement dépassée en quelque sorte. Moi, je reste toujours sur cette dichotomie argent noir, argent gris, c'est-à-dire effectivement l'argent du crime et la délinquance financière, puisque je fais encore une différence entre le trafic d'organes et la fraude fiscale. Cependant, aujourd'hui, on a vraiment une porosité totale entre ces deux mondes, puisque évidemment, lorsqu'on est dans l'argent noir, on va utiliser parfois ceux qui sont dans l'argent gris pour justement pouvoir faire circuler les flux financiers souterrains, et à l'inverse, ceux qui sont dans l'argent gris ont besoin de ceux qui sont dans l'argent noir pour réaliser justement les opérations de blanchiment. Et on l'a parfaitement vu avec tous les derniers scandales, et je pense plus particulièrement aux Panama Papers ou aux Paradise Papers, où on a vu que sur les mêmes montages, alors si c'est les Panama Papers, c'était des montages entre le Panama et les îles Caïmans, on s'apercevait que dans les mêmes montages, on avait aussi bien un dentiste de Paris qu'un milliardaire australien, qu'un membre d'Al-Qaïda ou qu'un baron de la drogue mexicain. Donc aujourd'hui, si nous pouvons encore faire la distinction sur les crimes primaires entre argent noir et argent gris, évidemment, quand on parle de blanchiment, on est dans quelque chose qui est totalement systémique et qui intègre aussi bien l'un que l'autre.
Effectivement, c'est important de souligner, Noël Ponce, que l'argent sale vient de trafic en tout genre, mais pas seulement, aussi de la corruption, de l'évasion fiscale, de la contrebande.
C'est tout à fait ça. Mais pour en revenir un petit peu en arrière, actuellement, on est en train d'analyser les détournements qui proviennent des fovies et des fraudes présidents. Fovies, c'est les RIB, donc criminalité spéciale. Criminalité, c'est la mafia israélo-française qui traite ce sujet en majorité. Qu'est-ce qui se passe? On a d'abord les détournements de virements. Le crime, ou le délit, il est sur la première partie. Le détournement sur les banques européennes. ces banques européennes vont partir vers les banques qui ne font pas d'échange, en Asie ou ailleurs. Depuis cet élément-là, on soupçonne beaucoup le fait qu'une partie de ces fonds vont être transformés en espèces et vont être utilisés pour la contrebande, pour l'achat d'éléments en contrebande, qui vont revenir en Europe vendus au black, et le black va servir au BTP, aux autres systèmes. Donc vous voyez, c'est une véritable machine qui est mise en place, et effectivement, c'est vrai que il devient maintenant l'ingénierie de cet élément essaie de regrouper de plus en plus tous ces systèmes de manière à ce que tout soit mélangé et que finalement on n'y comprenne plus rien.
Alors justement, pour tout comprendre à la fois aux paradis fiscaux et aux Panama Papers, l'un des meilleurs films, c'est peut-être The Laundromat de Steven Soderbergh, qui est sorti en 2019. Meryl Streep y campe une veuve escroquée par son assurance qui enquête jusqu'au Panama, où deux avocats travaillant pour le cabinet Mossack Fonseca dissimulent de l'argent pour le compte des super riches. Ils sont joués par Gary Oldman et Antonio Banderas.
Where most ideas about money come from? The United States of America.
À la fin du 19e siècle, l'État du Delaware s'est rendu compte qu'il n'attirait pas les entreprises aussi bien que New York et le New Jersey.
Donc le Delaware a commencé à prendre des mesures fiscales avantageuses dans le but d'attirer plus de sociétés.
Et ça a marché.
Le 1209 North Orange Street à Wilmington, Delaware, rassemble un total de 285 000 sociétés et aucune d'elles ne paye d'impôts locaux au fisc. Le réalisateur de ce film lui-même en a 5.
Et même notre scénariste en a une. Mais si le Delaware pouvait le faire, pourquoi pas la Suisse, ou le Luxembourg, ou Hong Kong et les îles Vierges britanniques.
Vous vous demandez probablement si tout cela est légal.
Oui, et ça a un nom, l'optimisation fiscale.
Attention, l'évasion fiscale, c'est un délit. Mais l'optimisation fiscale, c'est ce qui a motivé notre partenariat. Et la limite entre les deux, comme nous le disons, est aussi fine que le mur d'une prison.
Aussi fine que le mur d'une prison. Éric Vernier, avec l'essor des paradis fiscaux et leur montée en puissance, les techniques de blanchiment se sont encore complexifiées.
Oui, le problème dans tous ces montages, c'est l'opacité de certains territoires. Aujourd'hui, et Noël a parlé du faux-vie et de la fraude au président, effectivement, lorsque l'argent arrive sur certains territoires, il n'est plus possible de remonter jusqu'à lui. Et donc, on a ce problème de territoires opaques, avec un deuxième problème qui est la définition de ces territoires. Et lorsque on décide, par exemple, de sanctionner des paradis fiscaux, de les lister sur les fameuses listes noires de paradis fiscaux et de territoires non coopératifs, on s'aperçoit que finalement il y a très très peu de territoires officiellement parce que les définitions sont extrêmement restrictives et que lorsque l'on regarde les listes officielles, on a 8-10 territoires avec dedans l'Irak ou la Corée du Nord. Donc vous voyez bien que ça ne prête pas vraiment à beaucoup de réflexion sur la réalité des choses. Et on en a encore discuté très très récemment avec la sortie des îles Caïmans de la liste européenne. Donc le problème, c'est effectivement ces territoires, mais surtout le gros problème, c'est de ne pas les montrer du doigt en quelque sorte. Et donc ce sont des territoires opaques qui échappent à toute sanction et à toute surveillance finalement.
Le problème, c'est qu'effectivement on a des paradis fiscaux en Europe, aux États-Unis, et c'est ce qui explique aujourd'hui que ces pays ou ces territoires ne soient pas sur les listes noires.
C'est d'abord, je pense qu'actuellement, il faut travailler, penser, quand on pense paradis fiscal, il faut penser géopolitique. Hein, il y a très peu de paradis fiscaux autour d'un désert. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces paradis fiscaux ont une utilité. À 40%, cette utilité peut être plus ou moins justifié, optimisation, le reste étant des éléments relevant de la criminalité. Et il y a de plus en plus d'éléments relevant de la criminalité. Mais actuellement, je pense que il est assez difficile de se passer de ces passages. Alors bien sûr, il y a certains degrés dans les paradis fiscaux. Hein ? Je pense que la liste des paradis fiscaux est une farce. Ça, je crois que c'est clair. Hein. Maintenant,
notamment parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe, par exemple, quand l'Union européenne retire Oman et les îles Caïmans au prétexte qu'ils auraient amélioré leur législation fiscale. Oui, en réalité, il n'y a pas de contrôle.
Vous savez, je vais vous donner une méthode pour améliorer ma situation, mon contrôle. Hein, je suis paradis fiscal, je crois qu'il faut 12 autres paradis fiscaux, donc je prends 12 autres paradis fiscaux, je passe des contrats entre eux, des conventions avec eux. Et puis je suis, puisque j'ai passé 12 conventions avec les autres.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que il y a une obligation actuellement de passer des conventions avec un certain nombre d'États, de manière à pouvoir échanger sur ces éléments-là. Mm-hmm. Donc si vous passez des conventions entre paradis fiscaux, vous avez bien respecté le texte, mais ça ressemble beaucoup au foutage de gueule, quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà.
On vous comprend.
Donc on est comme ça. Tout comme tout le restant du montage, finalement. Puisqu'on le sait, ce sont des éléments qui datent de très anciens. Et Panama Papers, enfin, c'est des éléments connus qu'ils ont sortis. Mais ils ont été remarquables, parce qu'ils ont montré qui avait des comptes là-dessus, et comment on gérait ces éléments-là.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent qui va passer par les paradis fiscaux, par les banques des paradis fiscaux, qui va être blanchi, l'objectif, ce n'est pas forcément qu'il soit réinvesti dans l'économie légale. Éric Vernier, il peut rester dans la sphère financière et simplement devenir rentable comme un placement comme un autre.
Alors c'est un petit peu effectivement l'évolution de tout cela, et je pense notamment à tout ce qui concerne le blanchiment à travers l'art contemporain, par exemple, où vous avez finalement des zones franches, des ports francs, d'ailleurs, où vous avez des grands entrepôts avec dedans des milliers de tableaux de maîtres, et on va mettre ces tableaux dans des caisses, et puis on va les revendre, donc en sortant évidemment de toute considération fiscale, puisque nous sommes dans des zones franches, et ces tableaux vont circuler de main en main sans quitter leur caisse, évidemment, et au milieu de tout cela, on peut imaginer qu'il y ait un petit peu d'argent sale qui circule, et même d'argent très noir, et donc effectivement, on a parfois de l'argent qui circule en circuit fermé. On sait par exemple que plus de la moitié des billets de 500 euros n'ont jamais circulé en Europe, c'est-à-dire qu'ils restent dans la sphère souterraine, dans la sphère parallèle, et puis
d'où l'idée de les supprimer.
D'où l'idée de les supprimer, alors qu'en face, on avait par exemple l'Allemagne qui voulait des billets de 1000 euros, et ça, les blanchisseurs applaudissaient des deux mains, bien évidemment. Mais ne pas oublier quand même, parce qu'il y a une notion qu'on n'aborde jamais, en tout cas pendant des années, ça n'était pas intégré dans le grand public. Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, c'est le noircissement. C'est-à-dire qu'on a toute une partie, effectivement, du trafic qui reste souterrain, avec de l'argent qui reste sale parce qu'on en a besoin. Mmh. Et on en a tellement besoin que parfois il faut noircir de l'argent qui est propre. On a besoin de noircir, par exemple, le chiffre d'affaires de certaines entreprises pour pouvoir graisser la patte de certains fonctionnaires ou de certains politiques. On a besoin de noircir une partie du chiffre d'affaires pour pouvoir payer du travail au noir. Et puis surtout, et c'est pour ça qu'on en parle un peu plus aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'argent sale pour notamment financer des attentats. Alors, je ne parle pas du financement des organisations terroristes qui, elles, ont plutôt besoin de blanchir des fonds, mais à l'inverse, pour les attentats, on a besoin de financer des achats d'armes, par exemple, et donc parfois de noircir une partie du chiffre d'affaires d'une entreprise, les dons de certaines associations, ou encore le salaire de certains particuliers. Donc finalement, quand on parle paradis fiscaux et l'intérêt de lutter contre, moi j'avance toujours l'idée qu'il faut oublier qu'on veut lutter contre les paradis fiscaux parce qu'on veut lutter contre la petite fraude fiscale du plombier du coin, avec évidemment en face tout le monde qui se lève d'un seul homme pour dire mais il y a trop d'impôts, par exemple en France on est assommé, c'est normal, et donc évidemment
non, on parle ici d'argent très sale. Oui,
là on parle vraiment d'autre chose. Et c'est les paradis fiscaux et les banques dont on parle et dont on va parler. C'est derrière aussi le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains.
Alors justement, venons-en aux banques. Selon la dernière enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, au moins 2000 milliards de dollars de transactions suspectes auraient été réalisées entre 2000 et 2017. Les plus grandes banques du monde continuent de jouer un rôle de premier plan dans la circulation de l'argent sale. Noël Pons, c'est ce qui ressort de cette enquête ?
C'est ce qui ressort de cette enquête, mais c'est pas nouveau. Hein. En 2008, toutes les grandes banques avaient blanchi, tout simplement parce que je pense que actuellement, l'économie telle qu'elle est prévue a besoin de cet argent sale pour vivre.
Parce que c'est hein? 5%, entre 3 parce... et 5% du PIB mondial.
Oh, ça, je sais
pas. Ça, c'est très difficile à dire.
Je sais pas. Il y en a beaucoup, de toute façon. Eu égard à tout ce qu'on voit, vous prenez les journaux, vous regardez les montants de millions qui s'en vont sur une affaire contrôlée par des gendarmes ou des policiers. On se dit que si on multiplie sur tout le monde, bon. Mais, et donc, on est sur un schéma un petit peu, là, étrange. Hein. Je pense que, et en plus, c'est vrai que les banques sont un élément essentiel. Pourquoi? Parce que c'est elles qui donne le caractère positif, le caractère propre à cet argent. Mais il y a banque et banque. Et là derrière, il y a tout un circuit qui est organisé pour camoufler ces éléments-là.
Oui, il y a les banques internationales, mais il y a leurs filiales, et puis il y a aussi des banques locales, c'est ça ?
Les banques locales, les banquettes, ce qu'on appelle les banquettes, qui sont là derrière, petites banques qui permettent, dans l'ensemble du monde, tous les pays ne sont pas contrôlés. Et donc, il y a plus de la moitié des pays qui, à mon sens, sont incontrôlés ou incontrôlables. Et là-dessus, avec ces petites banques, on va jouer. Mais il y a aussi les bitcoins qui jouent ce rôle-là. Et les banques parallèles qui vont transformer l'argent de la drogue en argent propre. Alors, on a tout ça. Tout ça joue en même temps et s'articule. Ça, c'est le travail remarquable de l'ingénierie.
Un travail remarquable qu'on peut observer ou du moins mieux comprendre grâce au film de Vincent Garec, l'enquête qui revient justement sur les investigations du journaliste Denis Robert, joué par Gilles Lellouche. C'est lui qui a fait éclater en 2001 le scandale Clearstream du nom de cette société luxembourgeoise accusée d'être une grande lessiveuse d'argent sale extrait.
Régis Simple.
Denis Robert, enchanté.
J'étais le responsable informatique. Superviser le dénouement des transactions, que tout se passe
vite et bien.
Il me demandait de supprimer des transactions.
Ça se passait comment?
Vous voulez raconter ça dans votre livre?
Bien sûr. Oui. Dites-moi comment ça se déroulait.
Je recevais un coup de fil du service client pour me prévenir d'une opération entre deux banques.
Apple.
On me donnait le numéro de la transaction. Puis je l'effaçais. Et donc elle n'apparaissait plus dans le General Report. Mais comme le bilan comptable entre les deux banques restait inchangé, c'était ni vu ni connu.
Pourquoi il voulait les effacer, ces transactions?
À votre avis? D'où qu'ils viennent, l'argent sale, il entre dans la lessiveuse et il sort plus blanc que blanc. Sous forme d'actions ou de tout produit financier que vous voulez.
Éric Vernier, qu'est-ce que cet extrait nous dit du processus de blanchiment? L'argent circule de banque en banque jusqu'aux institutions les plus contrôlées?
Oui, alors ça n'est pas nouveau. C'était même dans les années 70 un certain Jurado qui avait mis ces techniques en place. L'idée, c'est de ce que l'on appelle kennedyfier l'argent. Alors c'est un néologisme en hommage à Joe Kennedy, le père de JFK. Kennedyfier l'argent, c'est le rendre de plus en plus honorable, de plus en plus respectable. Et effectivement, on va commencer par des banques qui sont sur des territoires peu contrôlés. Et donc, on pense évidemment aux paradis fiscaux et bancaires, entre autres. Et puis, petit à petit, on va faire circuler cet argent par des virements internationaux, de pays en pays, de banque en banque, de compte en compte. Et on va ainsi rendre l'argent petit à petit respectable. On atterrira un jour dans des banques, effectivement, de pays extrêmement bien contrôlés, au-dessus de tout soupçon, bien sous tout rapport. Et on aura donc, du coup, totalement oublié l'origine réelle de ces fonds Et donc on s'aperçoit finalement que s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de blanchiment, et s'il n'y a pas de blanchiment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de crime. Donc ça, c'est une équation qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, avec de l'argent sale qui, alors je voudrais reprendre le chiffre, hein, mais d'après mes études et puis des études qui ont été croisées, on est plutôt, en termes d'argent sale, entre 10 et 15% du PIB mondial. 3-5%, ce sont de vieux chiffres et qui correspondent surtout à l'argent, ce que j'appelle l'argent noir. Oui. Et si on prend l'ensemble de l'argent sale, on est beaucoup plus proche des 15% que des 5%.
Et ce blanchiment est permis par le fonctionnement des chambres de compensation. Éric Vernier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles fonctionnent et en quoi elles sont une aubaine pour les organisations criminelles ?
Alors, les chambres de compensation, alors Clearstream était la plus grande chambre de compensation tous les temps, avec Denis Robert, donc qui effectivement a dévoilé ces montages. Alors, pour le moment, on a le patron de Clearstream de l'époque qui n'a jamais été soupçonné de quoi que ce soit, et malheureusement, tout le monde s'en est très bien sorti. Mais en fait, l'idée de la compensation, c'est de dire qu'aujourd'hui, évidemment, on a de moins en moins de gens qui se promènent avec des valises. Ça existe encore, mais c'est quand même, ça commence à être un petit peu dépassé. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est que l'on va avoir des compensations entre pays dans ce qu'une banque doit à l'autre et inversement. C'est-à-dire que si, par exemple, une banque russe doit de l'argent à une banque française parce que ses clients ont fait des chèques, ont fait des virements, elle va la payer à un endroit. Et puis, quand ce sera à la banque française de devoir de l'argent à la banque russe, elle devrait payer un autre endroit. Et l'idée de la compensation, c'est qu'on va faire les comptes entre toutes les banques et on va dire, bah, finalement, tu me dois 100 à un endroit, mais moi, je te dois 100 à un autre endroit, donc on ne va rien faire. Hein, ça revient au même, finalement. Sauf que dans la réalité, on a eu à un moment donné de l'argent sale qui a circulé et de l'autre côté, de l'argent propre. Mais il n'y aura aucun transfert entre les deux pays, donc, et entre les deux banques. Donc, c'est ça le problème dans l'histoire de compensation, mais c'est difficile de faire autrement. Hein, c'est de dire, voilà, on fait le solde des comptes, ce que tu me dois, ce que je te dois. Et l'idée, évidemment, c'est de se dire, dans les pays peu contrôlés, on va devoir de l'argent sale, et dans les pays contrôlés, on devra de l'argent propre dans l'autre sens. Et donc, vous voyez, du coup, il n'y a aucun transfert d'argent, aucune possibilité vraiment d'aller au cœur de cette transformation d'argent sale en argent propre, et pourtant, les choses sont faites.
Noël Pons, sur ces chambres de compensation et sur la disparition des valises, je vous voyais faire la moue.
Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de valises, mais qui se promènent, mais sous des formes différentes. Elles se promènent sous la forme de cartes, elles se promènent sous la forme de cartes de débit, très professionnelles, très protégées, qui ont été mises en place pour les très riches qui disposaient de fonds personnels à ce niveau-là, et qui maintenant se déclinent. Je me souviens avoir, il y a une dizaine d'années, c'était en Bolivie, si mes souvenirs sont bons, et il y a une camionnette qui a été arrêtée avec 6000 cartes de débit avec 40 000 euros dessus, l'équivalent de 40 000 dollars dessus pour chacune. Donc ça servait à quoi? Alors, est-ce que c'est un problème pour le change entre divers pays? Bon, ou est-ce que c'est pour distribuer? On ne sait pas. Je voudrais revenir sur la compensation. On revient ici aux méthodes utilisées au Moyen-Âge pour les foires de campagne.
Alors, expliquez-nous
ça. Où on attendait, au Moyen-Âge, il y avait les grandes foires, la période des grandes foires. Il y avait la foire de Dijon, la foire de Lyon, la foire... Et pendant ces foires, les gens compensaient. C'était une sorte de hawala dont on parlera sans doute. Les gens compensaient. Tu me dois 15 vaches à je sais plus où, 18 à l'autre. Et puis, ils faisaient la moyenne. Et puis, bon, on faisait les états sans que l'argent ne se promène ou que l'argent soit récupéré ailleurs.
Donc vous voyez, finalement, les blanchisseurs n'ont rien inventé.
Je pense qu'il est difficile pour eux d'inventer. Ils peuvent complexifier la méthode. Ils peuvent utiliser les méthodes informatiques. Ils peuvent utiliser tous ces montages. On verra peut-être après sur les crypto-monnaies jusqu'où ils sont allés pour planter le système de contrôle. Mais effectivement, je pense que cette idée a toujours été dans un coin de tête de quelqu'un.
Et en même temps, ils continuent à échapper aux régulations, alors même que ces règles se sont durcies. On essaiera de comprendre comment et pourquoi dans un instant.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Now this man here is gonna take me by the hand and he's gonna lead me down the right path to righteousness
and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Fly Me to the Moon, le live de Frank Sinatra au Sands Hotel de Las Vegas en 1966. Frank Sinatra, dont on connaît les liens troubles avec la mafia italienne aux États-Unis. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, suite de notre discussion sur l'itinéraire de l'argent sale. Noël Ponce et Éric Vernier sont toujours avec nous. Alors, comment lutter contre le blanchiment d'argent? La question préoccupe les autorités depuis longtemps, mais plus particulièrement depuis les années 80, Éric Vernier, et la prise de conscience du danger de l'infiltration de l'argent sale dans la sphère légale.
Oui, je crois que les années 80 ont été un tournant parce que d'abord on a eu le trafic de drogue qui a explosé et il y a eu cette prise de conscience et donc cette mise en avant de certains textes, les premiers textes d'ailleurs de lutte contre le blanchiment, mais à l'époque c'était contre le blanchiment de l'argent de la drogue. Et donc il y a eu cette prise de conscience puisque les sommes étaient considérables. On était déjà en centaines de millions et en milliards de dollars de l'époque. Et donc il y a eu cette prise de conscience avec ensuite, et là je fais un petit clin d'œil, il y a eu l'appel de Genève en Europe, oui. Donc en 1996, de 7 juges invités par Denis Robert d'ailleurs à l'époque. Je précise que nous allons fêter les 25 ans et que j'organise ces 25 ans et donc il y a un appel à soutien sur la plateforme j'adopteunprojet.com pour justement soutenir ces 25 ans de l'appel de Genève où 7 juges comme le juge Van Ruynbeek ou Bertossa, appelait les autorités européennes à enfin se décider à lutter contre la grande délinquance financière qui était un fléau pour l'Europe et pour l'équilibre économique. Donc effectivement, à partir des années 80, on a assisté finalement à cet élargissement et à cette marée, j'ai envie de dire, cette marée d'argent sale dans l'économie légale, avec évidemment les fameuses années Thatcher-Reagan qui ont été des années de dématérialisation, dérégulation et d'internationalisation financière.
Et puis il y a un épisode important, et Éric Vernier, je me permets de vous interrompre, c'est la récession japonaise des années 80 qui n'est pas sans lien avec les activités criminelles des Yakuza. Là encore, il y a eu une inquiétude liée à cela.
Mais à partir du moment où il y a une crise importante, il y a derrière les mafias. Il faut vraiment avoir ça en tête, surtout en ce moment avec la crise du Covid, où les mafias depuis janvier-février sont déjà sur le pied de guerre sur le plan criminel, puisque évidemment rétention de matériel médical, contrefaçon de masques et évidemment profiter du télétravail pour justement, on en parlait tout à l'heure, de la fraude au président, puisque tout le monde est à distance. C'est plus facile d'attaquer, mais surtout, et ça c'est important, c'est l'intégration de l'argent sale, puisque eux ont plein d'argent, eux ont plein de liquidités, c'est de profiter de ce qu'on appelle la baisse du prix du papier, c'est-à-dire le prix des entreprises est en train de chuter vertigineusement avec la crise, et eux qui ont énormément de fonds à investir sont déjà en train de racheter ces entreprises à bas prix, comme on a assisté dans le passé, et notamment Vous avez parlé de la crise japonaise, mais aussi fortement en 2008, où des centaines et des centaines de milliards de dollars ont été investis dans les, notamment dans les grandes entreprises, mais je l'ai vu aussi dans les PME et notamment les PME françaises. Et
Noël Ponce, sur ces liens entre crise et mafia, il y a aussi un autre danger, c'est que les sociétés de façade qui cherchent à mêler activités légales et capitaux illégaux peuvent aussi fausser les prix et constituer une concurrence déloyale pour les autres entreprises.
Oui, mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu. On a fait, il y a quelque temps, avec Frédéric Pierucci, on a fait une formation pour les entreprises, pour leur demander de se protéger, parce que il y allait y avoir, à la suite du premier niveau de Covid, une multiplication des tentatives ou des achats de ces entreprises à un prix extrêmement faible. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Donc on est dans ce domaine-là. On a vu, de toute façon, ça se présente toujours de la même manière. Dans un premier temps, il y a la fraude. C'est tout le monde essaie de gagner. Une première inclusion de sociétés écran avec les blanchisseurs, avec la criminalité financière. Et ensuite, on rentre avec des gros soucis. Par exemple, lorsqu'ils ont commencé à travailler, à lancer les éléments qui concernaient sur l'internet
la blockchain,
voilà, pas la blockchain mais le système de
les bitcoins
de bitcoin, oui, effectivement, voilà, il y a eu tout un travail de fond qui a permis d'utiliser des éléments qui n'existaient pas, qui sont les mixeurs de bitcoin, de manière à ce que lorsqu'on achète un bitcoin, et par exemple en Floride on peut acheter des 500 000 dollars en bitcoin, une maison 500 000 dollars, j'ai des tableaux là-dessus, eh bien, des mixeurs de bitcoin qui permettent de mélanger les données pour qu'on ne puisse pas arriver au bénéficiaire final de l'opération. Donc, la technique vient rajouter cet élément-là.
Et alors, comment cette législation pour lutter contre le blanchiment a-t-elle évolué? Je vous propose d'écouter George Bush devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 novembre 2001, 2 mois donc après les attentats du World Trade Center.
Le temps de l'action est maintenant arrivé. Chaque membre des Nations Unies a la responsabilité de sévir contre le financement du terrorisme. Nous devons adopter toutes les lois nécessaires dans nos propres pays pour permettre la confiscation des avoirs terroristes. Nous devons appliquer ces lois à toutes les institutions financières de chaque pays. Nous avons la responsabilité de partager les renseignements et de coordonner les efforts des forces de l'ordre. Si vous savez quelque chose, dites-nous. Si nous savons quelque chose, nous vous le dirons. Et lorsque nous trouvons les terroristes, nous devons travailler ensemble pour les traduire en justice.
La nécessité de lutter contre le financement du terrorisme a donné un nouveau coup de fouet à la lutte contre le blanchiment d'argent sale, Éric Vernier.
Oui, alors ça a été effectivement après les attentats de 2001, il y a eu une réaction, puisque justement on s'est rendu compte que Al-Qaïda utilisait les mêmes circuits que les barons de la drogue ou les milliardaires qui fraudaient le fisc. C'était les mêmes circuits, donc on a décidé de faire ce qu'on appelle la LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est-à-dire que toutes les lois et règlements qui concernent ces deux volets sont en quelque sorte fusionnés. Le problème, c'est que on s'aperçoit que finalement, il y a eu des choses de fait, mais très très peu. Et en période de crise, je reviens sur cette idée, c'est qu'on ferme un peu plus les yeux. Et donc, si je reviens sur la crise financière et économique qui va découler de la crise sanitaire, comme on a eu la crise financière en 2008, le problème, c'est que les autorités, les banques, les conseillers d'entreprise, les chefs d'entreprise, finalement, deviennent moins regardants quand on est dans une situation un petit peu compliquée, et sans vouloir de dire qu'il y a une complicité objective, il y a malgré tout une tendance à oublier un petit peu les règles de bienséance, notamment dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
C'est l'idée du too big to jail, les banques sont des acteurs financiers trop importants pour pouvoir être véritablement fragilisés par des poursuites pénales.
Oui, alors too big to fail, mais quand on entend en bouche, moi j'ai envie quand même de rappeler que pendant pas mal de de mois, les États-Unis ont acheté du gaz et du pétrole à Daesh, hein, à l'État islamiste, sans trop de problèmes. Donc finalement, on a un discours, et ça c'est toujours le problème que l'on a depuis des décennies, c'est qu'il y a un discours d'un côté qui est un discours apaisant et de fermeté sur la lutte contre ces phénomènes. Quand on est sur le terrain, c'est beaucoup moins rose.
Sur le fait que les États ne veulent pas fragiliser ces acteurs financiers très importants que sont les grandes banques internationales, on peut peut-être donner l'exemple du procès contre HSBC en 2012, qui est assez emblématique, Noël Ponce.
C'est le gros problème. Le problème, c'est que pour une banque internationale, payer je ne sais plus combien de milliards de taxes ou d'amendes, finalement, ce n'est pas grand-chose. On avait calculé il y a très longtemps, avec une collègue de Suisse, qu'effectivement, pour un milliard une sanction de 2 milliards, pouvait pour une très grande pour une banque américaine, ça correspondait à 30 euros de plus par mois pour la banque.
Comme c'est le cas d'HSBC, c'était 1,9 milliard.
Voilà, donc vous voyez, des chiffres comme ça, donc ça veut dire que ça allait. Tant qu'on ne prendra pas les chefs d'entreprise, qu'on ne poursuivra pas les chefs d'entreprise, eux, parce que finalement, c'est eux qui le donnent, hein, je pense que le problème va être le même.
Et cela d'autant plus que les banques ont des réserves de milliards de dollars pour frais juridiques. Vous partagez cette idée, Éric Vernier, d'une responsabilité individuelle qui serait nécessaire pour lutter véritablement contre le blanchiment.
Je trouve qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle, pensez que dans la crise de 2008, il y a eu un seul président de banque qui a été sanctionné. Pourtant, tout le monde s'est bien amusé dans cette affaire. Hein? Bon, et tous sont partis avec plein de... Donc finalement, je pense que ça pourrait faire quelque chose. Mais il faudrait qu'on ait l'utilité, il faudrait qu'on ait... Et puis je voudrais vous lire quelque chose qui montre qu'effectivement les textes sont quand même... Il faut quand même faire... sont quand même discutables. C'est tout récent, c'est de Rabelais.
Ah bah oui.
Rabelais, livre 5, partie 12. Il dit « Or ça, les lois sont de véritables toiles d'araignée. Or ça, les simples moucherons et petits papillons sont pris. Or ça, les glotons, malfaisants, les rompent. Or ça, et passent au travers. » Voilà.
Rabelais avait prévu que les lois contre le blanchiment d'argent seraient insuffisantes.
Les lois ont toujours...
laisse la possibilité de les contourner. Éric Vernier, sur cette question de la responsabilité individuelle, est-ce que ce serait nécessaire selon vous?
Oui, alors je pense qu'il y a effectivement c'est une piste. Alors il faut faire attention puisque dedans il y a des responsabilités à évaluer, à qualifier et on ne peut pas mettre tous les dirigeants dans le même sac, même si sur certaines affaires et dans certaines banques, on a bien compris que ça remontait au plus haut niveau. Ça peut d'ailleurs parfois être simplement de fermer les yeux parce que au bout du compte il y a de la rentabilité, parce que j'aimerais bien quand même donner quelques chiffres sur la rentabilité de l'implantation dans les paradis fiscaux. Si on prend les listes que les ONG et nous experts conservons, c'est-à-dire une soixantaine de paradis fiscaux dans le monde, et que l'on regarde de près la rentabilité des banques sur ces territoires, et là je fais appel à une étude qui a été réalisée entre 2014 et 2015 par la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, on s'aperçoit par exemple que en moyenne dans les paradis fiscaux, un employé de banque est trois fois plus rentable qu'un salarié d'une banque française en France, qu'il est 20 fois plus rentable en Irlande et qu'il est 50 fois plus rentable aux îles Caïmans. Donc évidemment, de dire on va supprimer tout ça, c'est aussi peut-être mettre un pied dans la mare de l'économie et de la rentabilité des banques, y compris de nos banques. C'est-à-dire que dans les paradis fiscaux, il y a effectivement de l'argent sale, mais il y a surtout des services qui sont très très rentables, parfois des services cachés, voire borderline. Mais il faut quand même prendre conscience que effectivement les banques y trouvent leur compte, et elles y trouvent tellement bien leur compte que les autorités nationales, quel que soit le pays, n'ont pas forcément envie de couper la patte de leur propre banque.
Et les banques y trouvent leur compte, et c'est pour cela qu'elles pratiquent une conformité qu'on pourrait qualifier de cosmétique.
La conformité cosmétique, ça consisterait tout simplement à mettre en place la réglementation telle qu'elle existe, sans s'assurer en réalité qu'elle est effective. C'est-à-dire que vous pouvez respecter la réglementation à la lettre et avoir une conformité qui est complètement inefficace. Donc l'idée, c'est passer du texte à la pratique, c'est de faire en sorte que véritablement le contrôle fait par le service de conformité permette de vraiment détecter soit un risque de blanchiment, soit de manière encore plus grave, le blanchiment. Le problème surtout du département de conformité, c'est qu'il peut être perçu au sein même de l'entreprise comme un ennemi du commerce, parce que il va vous demander de bloquer telle transaction, il va faire une déclaration sur telle transaction, et ça peut bloquer en réalité les opérations commerciales, ce qui est de nature donc à être anti-économique au sens premier du terme.
Nicolas Cattelan, le directeur du master de lutte contre la criminalité financière à l'université d'Aix-Marseille. Il était chez nos confrères de France Inter le 26 septembre dernier. Noël Ponce, ce que l'on comprend, c'est que les banques font effectivement le service minimum tout en assurant suivre les réglementations essentiellement pour des raisons économiques.
Les banques se comportent exactement comme les grandes entreprises en matière de corruption. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui rapportent, ce sont des éléments qui sont positifs. Alors, comment les dirigeants sont liés, mais on se trouve confronté à une schizophrénie des cadres qui travaillent là-dessus, où on leur demande de faire des travaux et des bénéfices exceptionnels sur des éléments qu'on ne peut pas faire normalement. Mmh. Et donc là, on est sur ce type de schéma, on est exactement sur le même problème que celui de la corruption.
Et peut-être faudrait-il réussir, Éric Vernier, à la fois à sanctionner et à prévenir la faute, même si il est peut-être illusoire de compter, effectivement, comme on le dit, sur la bonne volonté des banques.
Oui, alors j'ai envie de rappeler deux choses. Je vais prendre l'exemple de la Suisse. Alors quand on a eu le printemps arabe, lorsque Ben Ali, Ben Ali est tombé, immédiatement la Suisse a annoncé qu'il gelait les avoirs de Ben Ali, comme si on découvrait d'un seul coup qu'il y avait des suspicions de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment. On voit bien que parfois, lorsqu'il y a une dénonciation ou en tout cas ce qu'on appelle une déclaration de soupçon de blanchiment, très souvent c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est soit parce que les enquêteurs commencent à approcher de trop près, hein, ça a été le cas avec certaines déclarations de soupçon, notamment sur l'affaire Guéant, mais sur Ben Ali, on voit bien qu'une fois que la personne a la tête bien enfoncée sous l'eau, là on va pouvoir déclarer. Et deuxièmement, rappeler quand même ce qu'on appelle la stratégie zèbre en Suisse. Zèbre, c'est-à-dire noir et blanc, c'est-à-dire qu'on va être blanc, c'est-à-dire hyper rigoureux dans le contrôle avec justement les clients qui proviennent de pays hyper contrôlés, par exemple la France ou les États-Unis. Par contre, on sera beaucoup plus laxiste avec les résidents de pays eux-mêmes très laxistes. Et donc on a aujourd'hui finalement l'argent sale dans les banques à travers le monde qui provient de plus en plus, par exemple, de la zone Afrique, où évidemment les contrôles sont plus légers qu'ailleurs, et surtout les autorités internationales, comme l'Europe d'ailleurs, et sont partis du principe qu'il ne fallait pas stigmatiser les pays en voie de développement en leur demandant d'être plus royalistes que le roi. Et donc, on est pour le moment très peu regardant avec ces pays. Et du coup, les banques qui ont envie d'avoir un peu d'argent sale acceptent très facilement cet argent. Donc, on a l'arbre qui cache la forêt et on a aussi finalement une cafétéria stratégie, c'est-à-dire je vais être plus ou moins rigoureux selon le type de client et nationalité que j'ai en face de moi.
Et puis c'est de plus en plus difficile pour les autorités, Noël Ponce, aussi parce que les acteurs frauduleux font preuve d'une grande capacité d'adaptation à mesure que les règles se durcissent, et notamment grâce au trading haute fréquence qui est particulièrement technique et difficile à entraver.
Alors là, le trading haute fréquence, il est possible qu'il y ait du blanchiment à ce niveau. Mais pour le trading à haute fréquence, pour que le blanchiment existe, il faut qu'il soit rentré avant. Parce que le trading à haute fréquence, une fois qu'on est dans les tuyaux, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des fraudes, hein, puisque à la nanoseconde, on va lancer une fausse opération pour faire bouger les autres sur ce circuit. Alors qu'on peut dire, quant au blanchiment, il faut qu'il soit mis en place avant. Hein. Mais la question est intéressante parce que ça nous permet.
Les acteurs frauduleux ont une longueur d'avance.
Voilà, c'est que ça nous permet de revenir à ce que disait Eric avec l'art. On a aussi les fonds d'investissement dans les paradis fiscaux. Et dans ces fonds d'investissement, comme dans l'art, on ne sait pas qui met de l'argent dans ce fonds et comment il l'utilise. Puisqu'il y a une protection, par exemple, au Caïman, il y a des pas mal de structures. Et donc, on a pas mal de jeux où, par exemple, sur un fonds d'investissement, on peut avoir une banque d'ici qui va donner de l'argent sur ce fonds d'investissement et il sera à côté d'un grand mafieux ou de peu importe. Vous voyez, donc on est toujours dans ce domaine. Il est évident que la technique rend plus difficile ces éléments-là. Hein, parce que par exemple, moi je pense qu'il est impossible, qu'il est du moins extrêmement difficile et surtout extrêmement long d'analyser ces prestations à la nanoseconde.
On voit que c'est extrêmement compliqué. En effet. Un dernier mot peut-être Éric Vernier sur cette difficulté à lutter contre le blanchiment de l'argent du crime et plus largement sur les paradis fiscaux malgré la multiplication des scandales et les grandes déclarations d'intention des responsables politiques de la planète.
Oui, alors déjà je voudrais préciser qu'on n'est plus à la nanoseconde. Mais à la picoseconde, 10^-12 secondes. Donc on a multiplié par 1000 la vitesse, hein, donc 10^-12 secondes aujourd'hui sur les marchés financiers. Hein, ça, depuis 2-3 ans, on est à cette vitesse-là. Et effectivement, du coup, lorsque on sait que si je ne prends que les marchés financiers, c'est à peu près 10 000 milliards qui s'échangent chaque jour, 10 000 milliards de dollars, il est évident que ça devient très très difficile à cette vitesse et sur ces montants-là, c'est très difficile de contrôler. Donc la réponse, pour moi, elle est de deux niveaux. Et d'ailleurs, j'étais il y a quelques jours à une table ronde sur la data dans l'enquête avec Dave Rurer. Il est évident aujourd'hui que si on n'intègre pas les nouvelles technologies et notamment évidemment l'intelligence artificielle dans le contrôle des flux financiers internationaux, ce n'est pas la bataille qui est perdue, c'est la guerre.
On prend cette direction ?
On commence à l'apprendre, mais tellement timidement. Alors, il y a des spécialistes de ces questions qui avancent, mais quand on voit, par exemple, l'autorité des marchés financiers, qui, dans son dernier rapport, consacre 3 lignes sur des dizaines et des dizaines de pages, 3 lignes sur l'intelligence artificielle, quand on voit que Monsieur Darmanin annonce à peu près 260 millions de fraudes fiscales récupérées grâce à l'intelligence artificielle sur les 12 milliards annoncés, on s'aperçoit qu'on a encore du chemin, mais on est en train de le prendre. Le problème, c'est qu'il faut toujours anticiper, il faut aller plus vite. Et je me souviens que j'étais très critiqué quand je disais attention au crowdfunding, attention au bitcoin par rapport au blanchiment et noircissement. Tout le monde me tombait dessus en disant mais non, on n'a rien détecté. N'empêche qu'aujourd'hui, quelques années après coup, on dit ah bah oui, finalement, oui, ça passe aussi par là. Donc je crois qu'il faut surtout imaginer ce que ceux d'en face peuvent préparer avec les nouveaux outils, les nouveaux services, les nouvelles technologies, plutôt que d'attendre de découvrir des faits pour commencer à se dire on va y aller.
Anticiper, c'est effectivement peut-être la clé du succès.
Très rapidement, Noël Ponce. Il faut penser truand à un moment donné. Il faut se dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ça.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Noël Ponce et Éric Vernier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, dont la 4e édition est parue chez Dunod en 2017. Un grand merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
La date butoir du Brexit se rapproche et Britanniques et Européens s'arc-boutent autour des poissons et des crustacés. L'UE veut conserver un libre accès aux eaux britanniques, Londres veut les contrôler. Alors la guerre de la pêche, paravent ou clé des négociations ?
Bien, c'est un peu l'histoire de pince-mi et pince-moi dans un même bateau. L'accord sur la pêche avec le Royaume-Uni a déjà été repoussé 2 fois et ces derniers jours, c'est la France qui pince le plus fort. Guerre de la pêche, prédisait lundi le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, en cas de no deal, reflet en fait des prises de position françaises ces derniers jours, de la ministre Annick Girardin déclarant que le Brexit en France, ce sera le visage de la pêche, jusqu'à Emmanuel Macron, promettant lors du sommet européen il y a 15 jours que les pêcheurs ne seront n'allons pas, dit-il, les sacrifier du Brexit. Même si la France, c'est vrai, se dit prête à un non-accord, les dommages seraient importants pour les flottes, car 30% de la pêche nationale se fait dans les eaux britanniques, et pour l'économie littorale également. À Boulogne-sur-Mer particulièrement, 65 à 70% du poisson transformé est passé par le Royaume-Uni, sans compter que les restrictions sur le fret affecteraient aussi les commerces qui ne pourraient plus fournir en poisson frais. Celui qu'on appelle le J+1, prévient le maire de Boulogne et ancien ministre de la Pêche, Frédéric Cuvillier, avis donc aux gastronomes.
L'inquiétude française est aussi politique. Xavier, Paris craint d'être lâché par l'UE sur la ligne d'arrivée du Brexit.
Oui, en fait, que la pêche ne soit la variable d'ajustement, comme le dit Le Point, d'une concession in extremis de la Commission, car depuis le sommet du 15 octobre, les Britanniques ont fait des propositions sur d'autres dossiers. Le front de la pêche européen pourrait se fissurer. Après l'accord inédit avec la Norvège, même si elle n'est pas vraiment membre de l'UE, la Belgique, qui réalise 70 à 80% de ses prises dans les eaux britanniques, souhaiterait aussi obtenir sa dérogation en réactivant un privilège du XVIIe siècle, acte original. Plus classique, certains pays comme les Pays-Bas, déjà gros acheteurs de quotas de pêche britanniques, pourraient se passer d'un accord en investissant plus encore dans les flottes britanniques. Or, sans accord avec Londres, Paris, elle, reste toujours dans l'UE et les 6 pays pêcheurs restants pourraient bien, en vertu des accords européens, se rabattre comme des sardines sur ces eaux poissonneuses.
Reste que 0,1% seulement des PIB respectifs et pourtant un point de blocage majeur des négociations. On soupçonne Boris Johnson d'instrumentaliser la pêche, mais est-ce que c'est vraiment le cas, Xavier ?
Eh bien, 0,1%, 0,5%, c'est vrai, mais ce qui compte économiquement dans ces négociations, c'est bien l'Atlantique Nord-Est où travaillent les 2/3 des marins pêcheurs français et la quasi-totalité des Britanniques. De plus, les pêcheurs britanniques qui ont dénoncé l'injustice de leur situation ne l'ont pas fait complètement sans raison, car le Royaume-Uni, qui a les eaux parmi les plus poissonneuses du monde avec 40 espèces à pêcher, attire l'Europe entière et tous les chiffres semblent montrer une vraie inégalité. Par exemple, la pêche européenne est plus de 8 fois plus importante dans les eaux britanniques que la réciproque. Les navires britanniques ne possèdent qu'un 0,5% des quotas de pêche dans leurs eaux, alors que 53% sont détenus par les trois plus grandes compagnies européennes. Ces derniers mois, d'ailleurs, une campagne assez vive a eu lieu dans la presse contre les bateaux usines, dont l'immense Margiris lituanien, qui viennent dans leurs eaux et jugés responsables de la surpêche.
Le Royaume-Uni pourrait alors trouver plus avantageux de négocier avec chacun ses propres quotas de pêche ?
Eh bien, les pêcheurs sont un problème, mais ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est l'intrication presque indissoluble des industries de la pêche, usines comprises. Et là, l'inégalité constatée se renverse, car on voit que plus de 40% des prises européennes en eau britannique sont transformées au Royaume-Uni et que 3/4 des exportations de l'industrie de la pêche britannique vont vers l'Union européenne. Ce qui veut dire que ce que les Britanniques autorisent aux Européens de pêcher, ils le transforment et le revendent. Tel est donc le deal qui les lie à l'Europe et tel est celui qu'ils pourraient perpétuer, voire étendre en cas de non-accord. En d'autres termes, ce sont les pêcheurs britanniques, dont le nombre a déjà été réduit de moitié depuis 83, qui sont déjà les sacrifiés en quelque sorte de l'industrie de la pêche britannique.
Et le Brexit pourrait aussi peser sur la politique commune de la pêche européenne ?
Oui, les nouveaux quotas de pêche pour 2021 seront décidés en décembre et la révision décennale de cette politique commune devrait intervenir en 2023. Or, sans accord avec le Royaume-Uni, la concurrence accrue sur une zone de pêche amoindrie pourrait faire voler en éclats la politique commune, avertit le président du Comité national des pêches dans la Croix. Pression supplémentaire, c'est donc bien pince-mi et pince-moi dans un bateau, pince-mi et pince-moi tombe à l'eau. Qui reste-t-il ? La politique commune à réformer.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr.
In the valley below me, in the valley below, they all pretend not to know me. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above.
Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levaché, à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. Merci également aux techniciens de France Bleu La Rochelle qui ont permis ce duplex. In the valley.
Demain, on s'intéresse à une économie parallèle, celle de la drogue qui brasse des sommes colossales dans les cités. Nous serons en compagnie de l'économiste Nasser Lalam et de la journaliste Claire Andrieux qui a réalisé une enquête sur le sujet. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.